Belle soirée à l'écoute d'Europe 1, il est 22h. Tout de suite le journal, Isabelle Millet.
Se sont habitués trop de nos concitoyens aujourd'hui à manifester dans la violence. Ensuite, de la même manière, j'attends nos policiers et nos gendarmes la plus grande déontologie.
Violence policière, Emmanuel Macron s'en mêle alors que la police fait face à plusieurs accusations de violence. Les parents de Cédric Chouviat, mort après un contrôle policier justement, ont eux été reçus aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur. La guerre est déclarée entre le gouvernement et Ségolène Royal qui s'estime licenciée. Ses récentes prises de parole publiques vont lui coûter son poste d'ambassadrice des pôles. Les médecins craignent de ne plus assurer correctement leur travail. Ils sont 1200 à démissionner aujourd'hui de leurs fonctions administratives.
On attend vraiment qu'Agnès Buzyn se ressaisisse. Elle est elle-même médecin hospitalier, elle connaît la situation et c'est une grande tristesse de devoir alerter nos gouvernants en effectuant ce geste.
Au sommaire également, les aveux glaçants du père Prénat au premier jour de son procès à Lyon. La France qui compte 67 millions d'habitants et toujours un peu moins de bébés. Et puis les poumons des joueurs de tennis sont-ils en danger à cause de la fumée? L'Open d'Australie débute lundi à Melbourne, ce sera difficile, dit le français Constant Létienne.
C'est pas raisonnable, enfin, voilà, on fait quand même un effort physique pendant 2h30. En respirant de la fumée d'incendie, c'est forcément mal.
Le Morbihan et le Finistère restent en vigilance orange ce soir pour risque de vagues submersion. Demain, le temps sera pluvieux sur le nord-ouest et ensoleillé sur le sud et l'est, ainsi qu'en Corse. Gare au vent qui va souffler assez fort. Ne manquez pas les prévisions complètes d'Anissa Haddadi à la fin de ce journal. Et puis comme chaque soir à 22h20, vous aurez rendez-vous avec l'interview d'Emmanuel Duteil, qui reçoit ce soir le spécialiste de la grande distribution, Olivier Dauvert, pour évoquer le premier plan social de l'histoire du groupe Auchan, plus de 500 emplois supprimés.
Europe 1.
Et à la une donc ce soir, la douleur d'une famille qui veut comprendre et qui veut aussi que les coupables répondent de leurs actes. Les proches de Cédric Chouviat ont été reçus aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur, plus d'une semaine après la mort de ce père de famille de 42 ans, décédé des suites d'une asphyxie, 2 jours après un contrôle routier musclé. Le père et la mère du livreur sont ressortis de cet entretien avec Christophe Castaner, déçus.
J'ai trouvé un père de famille, un homme qui m'a parlé, qui a répondu à nos questions. Ça s'est bien passé, mais on n'a pas de réponse concrète. S'il y a une nouvelle arrestation, ben, ça sera toujours avec le même combat, quoi. Parce que moi, j'appelle ça un combat. C'est plus des arrestations, c'est des combats, quoi.
Hein ? Tout ministre qu'il est, M. Castaner, on sait très bien qu'il a les mains liées par tous les syndicats de police et que lui, personnellement, il ne pourra rien faire. Donc on attend la justice. Et moi, je vous le dis aujourd'hui, j'espère qu'ils seront jugés aux assises. Moi, je n'attends que ça. Je n'arrêterai pas tant qu'ils sont pas aux assises.
Les parents de Cédric Chouviat, à l'issue de leur rencontre aujourd'hui avec le ministre de l'Intérieur, ils étaient au micro Europe 1 de Victor Dolande. Il se trouve qu'aujourd'hui Emmanuel Macron s'est invité dans le débat sur les violences policières alors que plusieurs scènes violentes circulent actuellement sur les réseaux sociaux.
Europe 1, le journal de la nuit, Isabelle Millet.
Le droit de manifester est un droit constitutionnel auquel je tiens. Mais se sont habitués trop de nos concitoyens aujourd'hui à manifester dans la violence. Et je le dis parce que le fait générateur, comme on dit, est là. Ensuite, de la même manière que j'aurai toujours ce discours et que je considère que nos forces de l'ordre sont là pour nous protéger, protéger l'ordre public, j'attends de nos policiers et de nos gendarmes la plus grande déontologie. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur, là-dessus, de me faire des propositions très concrètes. Il y a eu, très clairement, des images. Il y a aujourd'hui des affaires dans lesquelles je ne veux pas me prononcer, elles sont devant la justice. Des comportements qui ne sont pas acceptables ont été ou vus ou pointés. Je ne veux pas en faire la majorité du genre, je ne veux pas généraliser et je ne veux pas que, justement, ça atteigne la crédibilité, la dignité de nos professionnels des forces de sécurité intérieure. Mais pour cela, il ne faut avoir aucune complaisance.
Emmanuel Macron, au micro Europe 1 d'Adrien Beck. Les policiers qui sont en deuil ce matin, plusieurs centaines d'entre eux ont observé une minute de silence dans plusieurs villes en hommage à leurs collègues morts après avoir été percutés volontairement par un fourgon à Bron dans le Rhône.
Europe 1. Isabelle Millet.
Il est 22h04, merci d'écouter Europe 1, c'est la suite de votre journal. Madame l'ambassadrice, il va falloir tenir votre langue et arrêter de critiquer le gouvernement ou bien renoncer à votre mission d'ambassadrice d'épaule. C'est en substance le courrier reçu par Ségolène Royal, accusée de taper un peu trop ces derniers temps sur l'exécutif Jean-Rémy Baudeau.
Et c'est un courrier co-signé par les ministères des Affaires étrangères et de la Transition écologique qui commence ainsi. Il est envisagé de mettre fin à vos fonctions au regard de vos récentes prises de parole publiques. Ce courrier, c'est Ségolène Royal qui le met en ligne ce soir sur Facebook pour confirmer des informations du Canard Enchaîné. Le courrier lui rappelle qu'en tant qu'ambassadrice, elle est tenue à un devoir de réserve. C'est un détail dont elle s'est largement affranchie ces derniers mois, critiquant ouvertement le gouvernement sur l'hôpital, les retraites, le glyphosate, les violences policières, etc. C'est assez difficile de faire une liste exhaustive. Dans sa réponse ce soir, Ségolène Royal explique ne pas vouloir renoncer à sa liberté d'opinion et d'expression. Elle dit que cette liberté, elle lui est garantie par la Constitution. Mais ça fait quand même un moment qu'elle agace en haut lieu. À un moment, il faut sévir. Elle balance beaucoup trop. Elle l'a bien cherché, explique ce soir un membre de l'équipe gouvernementale. Ségolène Royal, que certains disent en campagne, mais à quoi ? On se souvient qu'elle avait tenté de revenir pour les européennes. Alors a-t-elle des velléités, peut-être présidentielles ? Le feuilleton est loin d'être terminé.
On verra ça effectivement. Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. C'est un geste très fort, celui de milliers de médecins hospitaliers qui ont remis aujourd'hui leur démission pour tenter d'alerter une nouvelle fois sur les conditions indignes à l'hôpital. Ça fait des mois que le personnel tire le signal d'alarme sans beaucoup d'effet. Par cette démission collective, Pauline Jacquot, les médecins espèrent marquer les esprits avec un effet immédiat. Pauline, ils arrêtent toutes les tâches administratives.
Oui, les absences, les congés, les jours de garde, toute cette gestion est laissée à la hiérarchie. Fini les réunions sur le financement de l'hôpital, les discussions avec leur direction ou l'agence régionale de santé. Les chefs de service gardent leur blouse de médecin, mais quittent celle de médiateur. Une décision difficile mais nécessaire, selon Xavier Mariette, le chef du service rhumatologie à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre.
On attend vraiment qu'Agnès Buzyn se ressaisisse. Elle est elle-même médecin hospitalier, elle connaît la situation. Elle doit absolument maintenant relever la tête et résister aux injonctions de Bercy. Et c'est une grande tristesse aujourd'hui, une grande émotion de devoir alerter nos gouvernants en effectuant ce geste.
Tous ces médecins dénoncent le manque de moyens, de matériel partout en France et dans tous les services. Démissionner aujourd'hui, c'est une manière pour Antoinette Perla, chef de médecine interne au CHU de Rennes, de sauver l'hôpital public.
Il y a un manque de lits, notamment en pédiatrie. On a eu des enfants qui ont été hospitalisés en gynécologie faute de lits. Quand on va voir les familles, qu'on passe une heure à expliquer un diagnostic difficile, qu'on se réunit avec des collègues pour parler des cas difficiles pendant une heure, ben tout ça, c'est pas pris en compte. C'est comme si on ne travaillait pas. Et je crois que là, vraiment, on est arrivé à un point de rupture.
Un point de rupture sur le salaire des infirmières, notamment le 28e sur 32 pays de l'OCDE, selon ces médecins. Résultat, ces soignants sont de plus en plus nombreux à quitter l'hôpital public et ne sont, disent ces médecins, presque jamais remplacés.
Les précisions de Pauline Jacquot. Le couperet est tombé pour les salariés d'Auchan. Les syndicats le redoutaient depuis des semaines. La direction leur a donc annoncé ce matin un plan de départ volontaire. C'est le premier plan social de l'histoire d'Auchan. 517 emplois supprimés afin de transformer et de redresser le modèle de l'entreprise. C'est ce que dit en tout cas la direction. Guy Laplatine de la CFDT Auchan est très inquiet. Pour lui, c'est le modèle de la grande distribution qui est peut-être menacé.
C'est un plan de départ volontaire. Donc ça veut dire qu'on ne va pousser personne à la porte. Après, c'est la façon dont ça se passe. Et là aussi, le rôle des partenaires sociaux. C'est-à-dire qu'on a un vrai rôle d'accompagnement. De toute façon, on a une épée de Damoclès sur la tête. Si la grande distribution ne se redresse pas, ou n'arrive pas à recapter des clients et à redevenir à peu près rentable, effectivement, il y a des inquiétudes à avoir sur le devenir des hypermarchés, des supermarchés et tous les emplois qui sont attachés. C'est une vraie révolution, passer du modèle des 30 Glorieuses où on achetait du volume et des prix à consommer intelligemment et des bons produits bio, etc. C'est pas gagné du tout pour la grande distribution, c'est absolument pas son format d'origine. C'est un vrai challenge. Il y a du pain sur la planche.
Guy Laplatine de la CFDT Auchan, il est au micro d'Europe 1 de Lionel Gougelot. L'avenir de la grande distribution, on y revient dans 10 minutes environ avec l'invité d'Emmanuel Duteil, Olivier Dauvert. Le constructeur automobile japonais Toyota a lui confirmé aujourd'hui la création de 400 emplois en CDI près de Valenciennes dans son usine d'Onin pour la construction de son nouveau SUV Citadin. La réforme des retraites, de nouvelles manifestations ont eu lieu un peu partout en France aujourd'hui avec des cortèges plus ou moins clairsemés. La CGT maintient tant bien que mal la pression sur le gouvernement. À Besançon, près de 7000 foyers ont été brièvement privés de courant. Plusieurs grands ports maritimes sont bloqués depuis ce matin. À l'appel de la CGT, la compagnie maritime Corsica Linea, l'ancienne SNCM, dont trois navires sont bloqués depuis vendredi dernier par les marins grévistes de la Méridionale sur le port de Marseille, annonce ce soir qu'elle annule toutes ses traversées vers la Corse demain, jeudi et vendredi. Alors qu'Édouard Philippe est revenu aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur la fameuse conférence de financement, le Premier ministre pense que cette conférence proposera une mesure d'âge afin d'équilibrer le système des retraites. Je ne vois pas comment, sinon on pourrait arriver à l'équilibre financier en 2027, dit-il. Sur les rails, du mieux pour demain. 80% des TGV et des TER et 75% des Transiliens seront en circulation. Et à la RATP, 11 lignes de métro sur 16 seront ouvertes toute la journée. 50% des RER A et B circuleront.
Europe 1, Isabelle Millet.
À Lyon, le procès du père Prena, l'ancien prêtre jugé 30 ans après les faits pour des agressions pédophiles sur deux jeunes scouts. 10 victimes sont parties civiles et certaines aujourd'hui ont témoigné à la barre, Jean-Luc Boujon.
Oui, et ça a été le cas notamment de Pierre-Emmanuel Germain-Thil, victime du prêtre entre 90 et 91, et qui est arrivé cet après-midi avec au cou son foulard de scout de l'époque. Au moment de venir à la barre, il a ostensiblement enlevé le morceau de tissu vert en déclarant qu'il s'en débarrassait, tout comme il se débarrassait de l'emprise du prêtre. Il a ensuite décrit les attouchements du curé Prénat, ses caresses sur son sexe, alors que le jeune garçon était enfant de cœur à la paroisse Saint-Luc. Tout cela a eu lieu peut-être une cinquantaine de fois, a affirmé Pierre-Emmanuel Germain-Thil, un chiffre vigoureusement contesté par le père Prénat, qui la plupart du temps a des souvenirs, des faits très flous, mais qui là est catégorique. 10 fois je veux bien, déclare-t-il à la présidente, mais pas 50, ce n'est pas possible. Et le prêtre d'expliquer à nouveau pour la énième fois qu'à l'époque, pour lui, ce n'était que de la tendresse, qu'il n'avait pas conscience de faire du mal, mais que maintenant, ça y est, il avait compris en constatant les conséquences dramatiques sur la vie de ces hommes. Il a ajouté qu'il s'excusait et qu'il demandait pardon, un discours devenu mécanique au fur et à mesure de la journée. Et pour tout dire, qui n'est pas apparu très sincère.
Jean-Luc Bougeon qui suit pour Europe 1 ce procès du père Prénat à Lyon. Le réalisateur Christophe Ruggiato en garde à vue aujourd'hui. Il devait s'expliquer sur les accusations d'attouchement sur l'actrice Adèle Haenel lorsqu'elle était adolescente. Des faits qu'il a toujours contestés. On a par ailleurs appris aujourd'hui que le réalisateur du film d'animation Un monstre à Paris avait été mis en examen pour un viol remontant à plus de 10 ans. Sa victime présumée s'est depuis suicidée. Elle travaillait sur le film. Il dénonce une opération de camouflage à mi-parcours du procès fleuve du scandale sanitaire du Mediator. Un ex-responsable de l'agence du médicament a chargé aujourd'hui les laboratoires Servier. Il les accuse d'ailleurs, comme de nombreux autres experts, d'avoir dissimulé les propriétés réelles de ce coupe-faim. Le Mediator tenu pour responsable de centaines de morts. Et maintenant, cette info qui peut servir, pourquoi pas, dans les quiz ou dans les repas de famille. Nous sommes désormais plus de 67 millions de Français, chiffre de l'INSEE. La population augmente de 0,3% avec quelques enseignements. Hélène Terzian, on fait toujours un peu moins de bébés, mais cette baisse ralentit.
Effectivement, 753 000 bébés sont nés en France l'an dernier. C'est 6 000 de moins que 2018, mais presque rien comparé aux baisses de ces 4 dernières années. Voilà pourquoi l'INSEE estime que l'indice de fécondité se stabilise. Il s'établit aujourd'hui à 1,87 enfants par femme. Cela s'explique en partie par une conjoncture économique plus favorable, les effets de la crise financière de 2008 qui s'estompe. Et sachez qu'avec ce taux, eh bien, la France reste le pays le plus fécond de l'Union européenne. Autre enseignement, même s'il n'y a là rien de très étonnant, le modèle familial se métamorphose. La famille dite traditionnelle, c'est-à-dire un couple qui vit avec ses enfants, tous issus de son union, reste majoritaire, mais depuis 2011, il y en a moins. Leur proportion a reculé de 69 à 67% au profit des familles monoparentales, dont le taux passe de 22 à 24%. La proportion de familles monoparentales, elle, est restée stable à 9%.
Les précisions d'Hélène Terzian. L'Open de tennis d'Australie doit-il être annulé? Pour l'heure, en tout cas, les organisateurs ne l'envisagent pas, même si certains joueurs souffrent, affectés par les fumées liées aux incendies qui ravagent le pays. Corinne Boulou.
Alors c'est vrai que l'image de cette joueuse slovène prise d'une violente quinte de toux au bord de l'évanouissement et contrainte à l'abandon a de quoi effrayer. Le malaise d'un ramasseur de balles aussi. 63 matchs sont cependant allés à leur terme dans cette ambiance de fumée toxique avec une qualité de l'air considérée comme mauvaise pour la santé. Le français Constant Létienne, 224e mondial, vainqueur de son premier tour de qualification ce matin, nous a confié avoir été surpris d'avoir dû jouer dans de telles conditions.
Moi j'étais pas trop d'avis de jouer au tennis dans ces conditions-là. Il y avait une grosse fumée et je ne sais pas trop pourquoi, ils m'ont lancé les matchs. Et c'est pas raisonnable. Enfin, voilà, on fait quand même un effort physique pendant 2h30 en respirant de la fumée d'incendie, c'est forcément mal. Quoi. On sent la fumée, ça pique un peu les yeux. C'était vraiment pas facile de jouer dans ces conditions-là aujourd'hui.
Et le Français estime que les joueurs sont des cobayes à moins d'une semaine du début du premier tournoi du Grand Chelem de la saison. La direction de l'Open d'Australie reste pour le moment insensible aux critiques, mais il est difficilement compréhensible de lancer des matchs en plein air quand la mairie de Melbourne conseille à ses habitants de rester confinés chez eux, fenêtres fermées, comme c'était le cas aujourd'hui.
Corinne Boulot du service des sports d'Europe 1. Heureusement, ça va mieux hein, quand même chez nous en France. On jette un œil sur la météo avec vous, Anissa Haddadi. Deux départements sont toujours en vigilance orange pour risque de submersion, le Morbihan et le Finistère. Et vous nous annoncez pour demain, Anissa, l'arrivée d'une nouvelle perturbation.
Oui, effectivement Isabelle, hein, par la Bretagne et le Cotentin demain pour cette nouvelle perturbation qui arrive donc avec de la pluie et du vent du sud assez soutenu. Dans la journée, cette perturbation, elle va circuler en direction de l'est. Sur l'ouest, demain après-midi, sur la Normandie et la Bretagne, les éclaircies seront de retour. Dans l'après-midi, donc du Poitou aux Ardennes, en passant par la région parisienne, il pleut donc demain, c'est là que cette perturbation va s'arrêter pendant quelques heures. Demain après-midi, avec toujours ce vent du sud qui, dans les terres, soufflera demain jusqu'à 60 km/h. Sur la façade atlantique, le long de la Manche et à l'est, jusqu'en Alsace, et bien là aussi, le vent du sud souffle jusqu'à 80 km/h. Dans le sud, c'est le vent d'Otan qui se lève. Et au bord de la Méditerranée, quelques ondées locales sont même possibles demain après-midi. Sur le reste du pays, eh bien, ce sont les éclaircies qui seront au rendez-vous. Les températures, elles sont douces. Demain, 0 à 9 degrés, 0 à Belfort le matin, 2 à Perpignan, 8 à Paris. Dans l'après-midi, il fait doux, hein, 9 à Gap, 12 à La Rochelle, Saint-Étienne et Paris, et jusqu'à 15 degrés à Marseille.
La météo signée Anissa Haddadi.
Europe 1.
Et dans un instant, vous saurez tout sur la bourse avec Didier Hamot de Boursier.com. Juste avant, l'invité d'Emmanuel Duteil qui reçoit ce soir Olivier Dauvert. Il est spécialiste de la grande distribution et avec lui, on va évoquer notamment le plan de départ chez Auchan. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Et à 22h16 sur Europe 1, comme tous les soirs à cette heure-ci, on va s'intéresser maintenant à la bourse avec vous, Didier Hamot, rédacteur en chef de Boursier.com. Bonsoir Didier.
Bonsoir Isabelle.
Et Wall Street qui hésite ce soir dans un marché prudent.
Très calme, oui. Il ne se passe pas grand-chose avant la signature de l'accord commercial entre Américains et Chinois. C'est demain à la Maison-Blanche.
Demain, on va suivre ça, évidemment.
Alors, il y a un message de bienvenue. Oui, ça y est, on y est. Alors, c'est un accord partiel, mais c'est un bel accord pour les marchés. Un message de bienvenue de Trump a été apprécié par Pékin. Washington a retiré la Chine de la liste des pays qui manipulent leur monnaie. Alors c'est un signe de détente très clair. Le Dow Jones ce soir prend 0,11%. Le Nasdaq recule légèrement de 0,24%. Il avait flambé d'1% hier. Les publications, les premiers résultats arrivent pour l'année 2019. Ça vient des banques aujourd'hui. JP Morgan et Citigroup ont publié leur quatrième trimestre 2019. Donc des résultats complets sont connus avec un quatrième trimestre qui est ressorti en ligne sur JP Morgan qui gagne 1,1%. En ligne aussi sur Citi, 5 milliards de dollars de bénéfices quand même. Citi qui monte de 1,5% à la clôture. Aux valeurs de technologie, donc on est plus calme après la hausse d'hier. Tesla gagne quand même encore 2,5%, 538 dollars. Apple, en revanche, perd 1,3% des prises de bénéfices sur Apple, 312,68 $. Le pétrole reste juste sous les 65 $ le baril et l'euro ne bouge pas. 1,11,20 contre le dollar.
Et la bourse de Paris, elle aussi, a peu varié en clôture.
Oui, pas beaucoup de mouvements. Le CAC 40 stagne, plus 0,08%, pas grand-chose. 6041 points à la clôture. Comme hier, les variations de cours ont été très limitées. On notera quand même les nouvelles remontées de Casino, plus 2,5%, qui poursuit ses cessions d'actifs. Et puis Capgemini, plus 2%, 114,25 €. Le groupe informatique a relevé son prix d'offre sur Altran de 14 à 14,50 € par action. Si l'opération échoue d'ici au 22 janvier, date de clôture de l'offre, eh bien Capgemini ne déposera pas de nouvelle offre sur Altran pendant au moins 18 mois.
Et l'exception du jour, Didier, c'est le groupe Technip qui est retombé de 3%.
Le groupe parapétrolier redescend, oui, effectivement, de 3%, 18,50 €, une baisse assez sévère dans le sillage du pétrole, donc toujours sous les 65 $ le Brent, plombé aussi par le broker Bernstein qui ne vise plus qu'un cours de 15,20 € seulement sur Technip. Donc en baisse ce soir de 3%, 18,50 € à la clôture. Sur les autres places financières, pas beaucoup d'écart non plus. Le DAX est stable à Francfort. Bruxelles, plus 0,15%. Madrid, moins 0,16%. Milan, plus 0,13%. Et le CAC 40, donc en hausse de 0,08%, 6041 points.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon, Didier Hamot de Boursier.com. À cette heure-ci, demain, ça devrait s'affoler hein, avec la signature. Enfin, tant attendu.
Ça
on
va
suivra
réagir,
ça
oui, oui.
Avec vous. Merci Didier.
Merci.
Et tout de suite, c'est l'heure de l'invité Écho sur Europe 1. Emmanuel Duteil, vous recevez ce soir un spécialiste de la grande distribution.
Bonsoir Olivier Dauvert.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Vous êtes un spécialiste de la grande distribution. On va parler d'Auchan hein, qui a annoncé ce matin 517 suppressions de postes. Ça ne concerne pas les magasins, mais c'est un choc hein, parce que notamment, c'est le premier plan de départ volontaire de toute l'histoire de l'entreprise Auchan. Un des patrons d'Auchan dit « Nous avons vieilli avec nos clients ». C'est ça, Auchan, ils n'ont pas su s'adapter ?
Bah, c'est surtout que pendant des années, ils expliquaient qu'ils étaient encore capables de rétablir la situation, de rester comme ils étaient, mais en le faisant mieux. Non, les temps ont changé, le consommateur a changé, et notamment le déclin des grands hypermarchés. Auchan est le dernier à l'avoir accepté, parce que pendant des années, il était dans une forme de déni de la réalité. Et quand vous êtes dans le déni de la maladie qui vous touche, vous attaquez le traitement plus tard que les autres. Et en général, quand vous attaquez le traitement, c'est à ce moment-là que ça fait encore plus mal. Mmh. Et donc, c'est ça que l'on est en train de vivre chez Auchan aujourd'hui, c'est que la réalité les a rattrapés. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'autre choix, malheureusement, que de voir des conséquences sociales.
Comment ces groupes peuvent réinventer l'hypermarché ?
Déjà, il faut qu'ils acceptent une idée toute bête, c'est que la cathédrale du commerce, l'usine à vendre, le temple de la consommation, appelez ça comme vous voulez, qui dépasse 12 ou 15 000 m², c'est terminé. Donc il faut accepter déjà de se couper un bras. Mmh. Alors évidemment, quand le bras n'est pas tombé, vous avez du mal à accepter qu'il faille qu'on vous le coupe. Et pourtant, c'est quelque chose de bonne gestion que de le couper. Le premier qui l'a fait, parce qu'il était dans des difficultés avant les autres, c'est Casino, qui a amputé ses magasins géants Casino de milliers de mètres carrés. Le dernier qui le fait, c'est Auchan. Et pourquoi c'est le dernier ? Parce que c'était le meilleur élève de la classe. Et quand vous êtes le meilleur élève de la classe de ce qu'était l'hypermarché d'avant, vous êtes encore en train de vous dire que ça peut revenir comme avant. Et non. Et que désormais, il doit réduire ses frais, réduire ses coûts et même réduire ses surfaces pour les grands hypermarchés.
Mais ça ne suffit pas d'avoir des magasins plus petits. Il faut vendre ce que les gens veulent avoir. Là encore, aujourd'hui, Auchan nous dit il faut vendre du bon, du sain, du local.
Ça, c'est de l'habillage, c'est de la communication, c'est de la cosmétique, c'est quelque chose qui tend à remettre les équipes dans une seule et même direction, qui est celle qui est définie pas par la transition alimentaire chez Carrefour, par le bien manger chez d'autres, par cette idée du bon, du sain chez Auchan. Tout ça, c'est quelque chose de banal et d'évident. Mais avant tout, il faut commencer par s'attaquer au mal. Le mal, ce n'est pas qu'Auchan ne vendait pas des bons produits avant. Ce n'est pas vrai. C'est qu'il avait des magasins trop grands dans lesquels les consommateurs ne venaient plus. Vous savez, faire ses courses dans un très grand hyper, c'est une double corvée. C'est une corvée d'y aller, parce que déjà, ils sont en général plus éloignés. Et puis, une fois que vous êtes dans ce grand hypermarché, c'est une corvée d'y faire vos courses. Parce que quand il fait 15 000 m², que vous avez oublié le sel et que vous êtes à l'autre bout, qu'est-ce que vous faites ? Vous râlez, voilà, vous n'allez pas retraverser tout le magasin. Et donc, de fait, cette double corvée, petit à petit, elle a détourné des consommateurs qui continuent à aller dans des hypermarchés, mais dans des plus petits hypermarchés.
Ma question va peut-être être complètement idiote. Quand vous dites qu'il faut se couper un bras, il faut réduire le nombre de mètres carrés. On ne va pas couper en deux son entrepôt, on fait quoi de la moitié du centre commercial ? On y met d'autres magasins ?
Bien sûr, on va par exemple, prenons un cas tout bête parce qu'il a déjà été fait par Casino. Vous avez un hypermarché qui fait, admettons, 12-13 000 m². Vous l'amputez de 2000 m². Et puis vous allez louer cette surface à une enseigne de sport, une enseigne de textile. Et donc ce faisant, vous allez en plus améliorer l'attractivité de votre site. Parce qu'en général, quand c'est Casino, Auchan ou Carrefour qui vendent des produits de sport ou du textile, c'est moins attractif que si c'est Decathlon, Go Sport ou H&M.
Et là, Auchan, en plus, a une énorme carte à jouer. Puisqu'avec la galaxie Mullier, du nom du fondateur d'Auchan, ils ont toutes les marques du Nord. Ils ont Decathlon, ils ont Pimki, on pourrait en citer comme
ils ont
des
révolutions. Ils ont une révolution culturelle à faire qui est toute simple, c'est se donner la main. Si tous les Mulliers se donnaient la main, ils seraient de très très loin les rois du commerce en France. Parce que quand vous avez le roi Merlin, champion du bricolage, Decathlon, champion du sport, toutes ces enseignes-là, et que vous avez en plus les Auchan qui existent, qui ont le trafic, parce que dans un hypermarché Auchan, dans les plus grands hypermarchés Auchan, songez que chaque année, il peut y avoir entre 3 et 4 millions de consommateurs qui viennent. Donc vous avez le trafic. Et en parallèle, cette galaxie Mullier, cette famille Mullier, ils ont des enseignes spécialisées plus légitimes.
Ce genre de corner
Il commence, on a déjà à Bagnolet, près de Paris, un Cultura qui est une enseigne culturelle qui a remplacé le rayon culture du Auchan. On a Electrodépôt qui a remplacé le rayon électronique. À Beauvais, on a Boulanger qui a tapé l'incruste, on va le dire comme ça, dans un Auchan. Mmh. Donc ce qu'on appelle la cornerisation, le mot n'est pas joli mais il dit bien ce qu'il veut dire, ça veut dire qu'on fait venir des enseignes sous forme de corner dans l'hypermarché, c'est en train d'avancer. Et les Mulliers sont les mieux armés pour y arriver.
Parce que c'est l'autre difficulté. Il y avait trop de mètres carrés, mais aussi aujourd'hui, on ne va plus acheter notre télévision au supermarché. On achète de moins en moins ses vêtements au supermarché. C'est aussi tout ça qui explique qu'il y a trop de mètres carrés.
Sur les produits non alimentaires, l'équipement de la maison, l'équipement de la personne, l'hypermarché, il a petit à petit perdu toutes les batailles. Il a perdu la bataille de la légitimité quand des enseignes spécialisées sont arrivées, parce que plus spécialistes que lui. Et puis ensuite, après, il a perdu la bataille du choix et du prix quand Internet est arrivé. Aujourd'hui, quiconque achète une télé en hypermarché, plus personne, sauf si vous en avez besoin dans l'instant et que l'hypermarché, il est face à vous. Donc, de facto, l'hypermarché sur le non-alimentaire, il est condamné en fait à être qu'un magasin de dépannage. Donc, quand il s'associe avec une enseigne spécialisée, il va chercher la légitimité de l'enseigne spécialisée, il la ramène dans son hypermarché et de fait, il risque plus de vendre des télés si c'est vendu par Boulanger chez Auchan que si c'est vendu par Auchan chez Auchan.
Mais si on doit se résumer, Auchan malgré tout, notamment grâce à sa galaxie, grâce à ses emplacements, a tout pour être capable de devenir à nouveau demain un grand nom du nouveau commerce.
Sans aucun doute, les Mulliez, parce qu'il faut les appeler comme ça, cette famille-là, ils ont toutes les cartes en main pour être les rois du commerce en France, parce qu'ils ont à la fois des grandes surfaces qui ont le trafic encore, malgré tout, même si ça baisse, c'est encore un trafic très important qui va le samedi dans un hypermarché. Et en parallèle, ils ont des enseignes très spécialisées, donc très légitimes, qu'il suffit peut-être de conjuguer l'une à l'autre pour mélanger le trafic et la légitimité. Et ça, ça pourrait devenir extrêmement vertueux. Mais il faut quand même commencer d'abord par le fait que Auchan, qui est le cœur du réacteur, commence d'abord par accepter que le temps d'avant est terminé. Et c'est pour ça qu'on est en train de le vivre aujourd'hui avec retard et que ça fait mal, ça va piquer, mais c'était malgré tout nécessaire.
Eh bien, un grand merci Olivier Dauvert, spécialiste de la grande distribution, d'avoir été notre invité ce soir. On se retrouve demain, 22h20 sur Europe 1.
Évidemment, on vous retrouve demain. Merci à vous, Emmanuel Duteil. Et dans un instant, jette un œil sur les unes de vos quotidiens. Quels sont les sujets que nos confrères de la presse écrite ont choisi de mettre en avant? À tout de suite sur Europe 1. Et voici donc ce que vous découvrirez demain à la une de vos quotidiens. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, est à la une de Libération avec ce titre « Violence policière, fini le flagrant déni ». Des gilets jaunes aux manifs contre la réforme des retraites, les violences policières ont explosé. Après 3 morts et plus d'un an à fermer les yeux, écrit Libération, l'exécutif commence à prendre conscience du problème face à la multiplication des vidéos et des affaires. « Violence policière, tout doux », titre pour sa part le journal 20 minutes, qui rappelle qu'Emmanuel Macron a demandé à l'exécutif des propositions pour améliorer la déontologie des forces de l'ordre, on l'entendait tout à l'heure dans le journal, une annonce qui divise députés et syndicats. Une photo de manifestants à la une du journal La Croix avec ce titre « 42 jours de grève et après ». Les salariés grévistes de la RATP s'interrogent sur l'avenir de leur mouvement. 67 millions d'habitants, et moi, et moi, et moi, des Français qui vieillissent, des bébés qui se font plus rares, des familles monoparentales toujours plus nombreuses. Les estimations démographiques publiées par l'INSEE pourraient casser l'ambiance s'il n'y avait cette barre symbolique d'une population française dépassant au 1er janvier 2020 les 67 millions d'habitants, écrit Laurent Baudin dans le journal L'Alsace. Voilà un joli compte-rond pour débuter la dernière année de la deuxième décennie du 21e siècle. À propos de ce recensement, dans le journal La Montagne, cette fois, Dominique Diognon estime qu'en filigrane, ces statistiques tracent aussi les contours d'un pays traversé par des tendances de fond qui malmènent deux institutions autrefois sacralisées, le mariage et la famille. Ainsi, le pacte civil de solidarité, le fameux pacte, est-il sur le point de déboulonner le mariage de son piédestal vermoulu, écrit-il. Moins léger et plus signifiant, 28% des enfants mineurs, soit 4 millions d'entre eux, vivent désormais avec un seul de leurs parents, un éclatement de la cellule familiale qui a trop souvent des conséquences directes en matière de conditions de vie et donc d'égalité des chances. À la une des Échos, les leçons de 2 ans de guerre commerciale. Vous savez qu'une trêve doit enfin être signée demain entre Washington et Pékin. Chine, États-Unis, les périls de la guerre des technologies, titre pour sa part le journal L'Opinion, qui explique que si cet accord commercial sino-américain qui devrait donc être signé peut faire croire à un apaisement, en fait le risque de découplage entre Pékin et Washington reste grand du fait de leur rivalité technologique. Cette signature ne doit pas masquer une rivalité plus profonde et donc durable entre les deux premières puissances économiques de la planète. Et voilà donc pour ce tour d'horizon rapide des unes de vos journaux que vous retrouverez demain matin dans vos kiosques. Il est 22h30, merci de nous écouter sur Europe 1. Vous retrouvez tout de suite Olivier Delacroix pour votre libre antenne. Bonsoir Olivier.
Bonsoir Isabelle.
Une très belle émission à vous, à tout à l'heure.
Merci, à tout à l'heure.